Vous êtes sur Radio B 90.0, les bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, avec Bruno Point et Paul Turchet. Et Bruno se joint à moi pour vous présenter tous nos voeux de santé, prioritairement.
Bonne année et bonne santé et, à tous.
Et de santé en musique. Nous avons la faiblesse de penser que la musique est une bonne chose pour l'immunité, pour renforcer l'immunité naturelle. Chacun se fera son opinion sur la question. Nous allons vous parler aujourd'hui de trois immenses pianistes de jazz, Fats Waller, Art Tatum et Oscar Peterson. Avant de vous parler plus particulièrement de chacun, il faut dire qu'ils ont comme maître Scott Joplin, un pianiste et qui est né en 1868 et mort en 1917 à New York, pianiste-compositeur et qui a écrit des œuvres dans plusieurs styles, y compris classique et l'opéra, mais qui tient sa notoriété à ses compositions de musique de ragtime. Ragtime qui est un jumelage de la musique africaine et de la musique classique et qui représente par Joplin la rencontre de ces deux traditions musicales avec une structure de musique classique occidentale et des mélodies et des rythmes des communautés afro-américaines du 19e siècle. C'est dans ce style de musique, le ragtime, qu'on va observer ce phénomène du mariage entre ces deux musiques et ces deux influences, avec un rythme syncopé du ragtime qui ajoute une touche originale à un style de musique assez classique. Après Scott Joplin, il y aura quelque part ses enfants spirituels, les trois pianistes dont nous parlerons et que j'ai simplement présentés. C'est la naissance du vrai jazz, si je puis dire vrai jazz, et avant ce jazz, il y a des groupes et ensembles prestigieux dans lesquels ils ont joué, mais nous nous consacrerons plus particulièrement à leur composition de soliste, donc de pianiste. Vous allez écouter une composition de Scott Joplin, publiée en 1902, qui est très connue et qui a fait les bonheurs d'une musique de film plus tard, The Entertainer. Thank you.
Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Le ragtime, c'est-à-dire ce mariage entre la musique occidentale et la musique afro-américaine, qui donne un balancement, un rythme qui va nous amener tout droit vers le jazz. Ça n'est pas encore du jazz, mais nous voyons poindre Fats Waller. À l'époque, Fats Waller est né en 1904. Il y a d'ailleurs de grandes parentés entre les pianistes que nous allons présenter, Scott Joplin que nous venons d'écouter. Nous sommes avec quatre pianistes noirs. Nous avons Scott Joplin dont les parents étaient musiciens. On oublie beaucoup qu'à cette époque, beaucoup de familles noires avaient des musiciens, jouaient beaucoup de piano, chantaient, et notamment la place de l'église. Dans le cas de Fats Waller, son père était pasteur prédicateur, il jouait de l'orgue, sa mère était organiste aussi. Et on a donc un milieu tout à fait favorable au développement de la musique. Ce qui était moins favorable au développement de la musique qui allait être celle de Fats Waller, c'est que son père était un pasteur, prédicateur très rigoureux et qu'il ne concevait en rien que son fils puisse aller jouer des musiques démoniaques et en particulier dans des boîtes de nuit et des bouges. Il faut bien reconnaître aussi qu'à l'époque, les boîtes et les bars étaient plus des bouges que des lieux de concert. Néanmoins, c'est là que Fats, après avoir joué de l'orgue à l'église, il se révélera un très grand organiste. Au point que Count Basie, un des rois du swing et du jazz avec son grand orchestre, venait prendre des cours d'orgue auprès de Fats Waller, parce que vous allez pouvoir l'écouter, puisque maintenant nous allons écouter une œuvre de Fats Waller jouée à l'orgue d'église. Or, chacun imagine qu'un orgue d'église, c'est assez lourd, c'est un énorme instrument. Eh bien, Fats Waller est tellement dominé par le rythme qu'il va nous emmener dans une danse et dans un chant, puisqu'ici, il est accompagné par une... ou plutôt, il accompagne une chanteuse. Voici Sugar de Fats Waller. Petite erreur, il n'y avait pas de chanteuse. Il existe une version avec chant et là, Fats est seul à l'orgue. Nous avons entendu le balancement, nous avons entendu les basses, donc nous sommes passés du ragtime de Scott Joplin au stride de Fats Waller. Le stride, c'est la continuité du ragtime avec une basse moins profonde et un médium moins haut. Et vraiment, on a ici une idée du balancement. Et qui plus est, Fats Waller, qui était un très grand technicien, enrichi à la main droite avec beaucoup d'ornements, des tris, des tierces déroulées. On retrouvera ça dans toute la descendance du jazz, notamment Count Basie, notamment Duke Ellington, qui seront tous des grands admirateurs de Fats Waller. Fats Waller donc débute en apprenant l'orgue. Il continue parce que rappelons-nous qu'à l'époque il y avait des films muets pour l'essentiel et dans les grands cinémas il y avait un orgue ou un piano, mais très souvent dans les grands cinémas un orgue. Et Fats Waller à 14 ans trouve un emploi correctement rémunéré comme accompagnateur de films à l'orgue. Son père tolérait ça jusqu'au moment où il est allé plus loin et qu'il est allé dans les bars où là il va rencontrer rapidement le grand de l'époque, c'est-à-dire James P. Johnson, qui était un grand joueur de stride, qui a lancé le stride et qui va tellement trouver Fats Waller talentueux qu'il va tout lui apprendre, et en ayant parfaitement conscience que Fats Waller allait enrichir cet art et aller plus loin que lui. C'est ce qui s'est passé. Écoutons maintenant Fats Waller dans Squeeze Me au piano. C'est un piano, on appelle ça le piano là ou piano roll. Donc le son date. C'était les fameux pianos mécaniques avec des rouleaux. Thank you. ressent que cette musique est très gaie, pleine de vie, pleine d'énergie. C'était le cas de Fats Waller, qui avait aussi le tort, peut-être, de ne pas s'économiser. Fats Waller était un homme bon vivant, grand dragueur, grand coureur de jupons, buveur, amateur de bonne cuisine. Et quelque part, il va en mourir, il va en mourir à 39 ans, tout à fait bêtement, dans une tournée, parce qu'il ne s'économisait pas. Et donc, dans cette tournée, il prend froid, il maintient ses prestations à la radio, il maintient ses concerts, il joue dans une boîte de nuit glaciale, avec des courants d'air, il reprend le train, et il meurt vraiment d'insuffisance pulmonaire. On peut vraiment dire que c'est une mort idiote. Il est vrai que l'époque était plus difficile et peut-être moins de suivi médical. Mais en attendant, à 39 ans, il disparaît. Après une vie où il aura rencontré tous les grands du jazz, il était très ami avec Armstrong, il va jouer avec Betty Smith, il va jouer avec tous les grands du jazz. Et on a d'ailleurs une reconnaissance de tout le monde face à une musique qui aujourd'hui peut-être peut dater un petit peu parce que le jazz va évoluer après, mais qui a quand même dressé les fondamentaux du jazz. Écoutons maintenant 18e Street Stomp, un des plus célèbres standards de Fats Waller, qui en écrira beaucoup, qui seront repris par tous les musiciens après lui.
Après Fats Waller, nous nous intéressons à un autre fils spirituel de Scott Joplin, en la personne d'Art Tatum. Art Tatum, né en octobre 1909 dans l'Ohio, dans une famille qui n'est pas spécifiquement musicienne, il étudie le violon et la guitare et très rapidement se dirige droit vers le piano. Il est quasiment aveugle, puisqu'il est né avec une cataracte qui affecte sa vision des deux yeux. Et après beaucoup d'opérations douloureuses, il va retrouver un peu la vue. Puis il va la perdre à la suite d'une agression dont il va être la victime. Et ce que vous allez écouter est le fruit et le travail d'un musicien qui n'a pas de vision de l'œil gauche et qui a 25% en gros de vision de l'œil droit. Ça donne une idée du prodige qu'était Art Tatum. Art Tatum va mourir d'ailleurs un petit peu, il va vivre la vie par les deux bouts, comme Fats Waller. Lui, il va mourir à 47 ans d'une crise d'urémie massive, ce qui était évidemment fort penché sur le whisky. Et il commence ses débuts professionnels en 1926, avec l'influence de Fats Waller, qu'il admire, et lui-même est admiré par Fats Waller. Tellement admiré que ses improvisations et sa virtuosité vont faire dire à Fats Waller, un soir où il joue dans un club, et Fats Waller joue, et il voit arriver Art Tatum et il dit « C'est moi qui joue ce soir, mais Dieu est avec nous dans la salle », en parlant d'Art Tatum. Pour tous les autres pianistes, cet éblouissant virtuose reste un idéal difficilement accessible. Je reviendrai sur les admirations classiques qu'il a suscitées. Maîtrise, sensibilité, fraîcheur, finesse, élégance, originalité et inspiration mélodique inépuisable. Nous allons écouter une chanson de la comédie musicale Nono Nanette, créée à Broadway en 1925, chanson qui est très connue, qui s'appelle Tea for Two, qui fut ensuite très largement exploitée dans le domaine musical. C'est un duo chanté par Nanette et Tom, dans l'acte 2, par lequel ils décrivent leur avenir tel qu'ils l'imaginent. Écoutez ce qu'en fait Art Tatum. Art Tetum, je l'ai dit, grand admirateur de Fats Waller, a abordé le swing et le boogie-woogie en les portant à des vitesses pianistiques sans précédent. C'est tellement virtuose qu'Art Tetum fut admiré, et il est encore, mais il fut admiré à son époque par de très grands pianistes classiques. Et au premier rang d'entre eux, Vladimir Horowitz, à qui nous avons consacré une émission, que vous avez régulièrement écouté dans d'autres émissions d'ailleurs consacrées à des compositeurs. Vladimir Horowitz qui se déplaçait pour aller écouter Art Tetum. Rubinstein, Arthur Rubinstein l'a admiré. Samson François, pianiste français. Le compositeur et pianiste Rachmaninoff, George Gershwin et même Stéphane Grappelli, le violoniste de jazz, qui était persuadé qu'en fait Art Tetum ne pouvait pas jouer comme cela tout seul, qu'il y avait deux pianistes. Même André Prévin, qui fut pianiste puis chef d'orchestre, lorsque son père, il l'explique en 1974, lorsque son père lui fait écouter Art Tetum, André Prévin, qui est un brillant pianiste, pleure toute la nuit et cesse de jouer pendant 2 mois du piano. Et le critique musical Fizer, Leonard Fizer, l'a appelé le plus grand improvisateur de l'histoire du jazz, quel que soit l'instrument. Premiers enregistrements en 1932, maîtrise totale du clavier, vitesse inouïe, mais il garde le rythme, il ne casse pas la mélodie, il fait des incidentes, il part à gauche et à droite, mais il revient à la mélodie qu'on retrouve constamment, il ne la brise pas. Donc il construit dans ses improvisations une complexité inouïe d'harmonique, d'incidente, et à un univers musical marqué par une véritable luxuriance où la colonisation, on peut dire, l'appropriation de la ligne musicale est absolument incroyable. Nous allons l'écouter, écouter son style cette fois totalement fulgurant. Ça fait penser effectivement à la technique d'Horowitz. Je pense que peut-être Horowitz s'est inspiré d'Art Tetum, on ne le saura pas, plutôt que l'inverse, parce que il y a cette technique fulgurante, quasiment pas de pédale, on ne l'entend pas. Et dans ce morceau qui s'appelle 1932, Tiger Rag. Thank you. Voilà, je crois que dans cet extrait, vous avez tout l'art d'Artetum qui maintient toujours la mélodie, qui est reconnaissable, qui progresse d'accord en accord et qui décore constamment la ligne mélodique par des ornements, ce qu'on appelle des escaliers ascendants ou descendants. Il a aussi cette façon particulière et unique de jouer comme dans le style de Liszt, qui montre que Artetum en fait possédait la musique classique, l'avait étudiée et s'en inspirait dans ses propres improvisations. Il était pétri aussi de la musique classique, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds dans un conservatoire, en étant quasiment autodidacte de la musique et donc du piano. Cette façon unique de jouer en harpe, comme une harpe que l'on retrouve dans la musique de Liszt notamment, avec un son de timbre qui est lumineux, qui est clair, quel que soit le type d'improvisation qu'il joue. Il a joué des thèmes classiques, du Dvorak par exemple, et il fait, dans ses improvisations, il rend un orchestre complet avec des voix indépendantes, avec ce toucher unique qui est le sien. Nous allons l'écouter dans une improvisation qu'il a composé et qu'il a fait à partir d'une musique de Massenet, le compositeur d'opéra français, à qui nous avons aussi consacré une émission, j'annonce l'improvisation d'après l'élégie de Massenet par Artetum.
Alors que Fats Waller et Art Tatum sont des artistes nés au début du XXe siècle et vont malheureusement disparaître rapidement, puisque avant l'âge de 40 ans, tous les deux, ou quasiment 40 ans, eh bien, Oscar Peterson, lui, va traverser le XXe siècle. Il naît en 1925, il est donc très influencé par nos deux auteurs que nous venons d'écouter, grands pianistes, et il va décéder en 2007. Il a donc vécu toute l'histoire du jazz du XXe siècle, il aura joué avec tous les grands, notamment Miles Davis, notamment Duke Ellington. Il aura été admiré par tous, quelquefois un peu critiqué parce que vraiment immense virtuose. Donc on a là la critique que l'on retrouve toujours, que l'on a retrouvée par exemple sur Franz Liszt, hein, à savoir musique ou technique, musique ou virtuosité. Les détracteurs mettant l'accent sur la trop grande importance de la virtuosité, et les amoureux de la musique, n'oublions pas que ce sont de très grands musiciens. Donc, Oscar Peterson a été encensé par tous les musiciens, et nous allons débuter en l'écoutant dans le même titre que nous avons écouté par Art Tatum, à savoir Tea for Two. Donc débutons par Tea for Two. Oscar Peterson est né au Canada. Il aura évidemment beaucoup vécu plus tard, encore qu'il n'ait jamais vraiment quitté le Canada, mais il a beaucoup vécu aux États-Unis, qui est quand même la plateforme mondiale du jazz où tous les musiciens sont présents. Donc au Canada, il a une solide formation musicale, des parents musiciens, il prendra des cours. On voit tout de suite dans la clarté de son jeu la précision qu'il a appris le piano, qu'il a appris la musique classique, il est très structuré. Et au début des années 40, il commence à, non pas étouffer, mais le Canada est trop petit pour lui. Et il a été remarqué ni plus ni moins que par Dizzy Gillespie, qui dira à un producteur, va l'écouter, ce que j'ai entendu est tout à fait, dépasse l'entendement. Et finalement, c'est Norman Grant, c'est un très grand producteur qui a produit beaucoup, beaucoup de grands jazzmen. Et plus que les produire, il les a accompagnés, il les a ressentis, il les a découverts, il les a suivis toute sa vie. C'était sa passion. On raconte que Norman Grant, c'était au Canada, il devait voir Oscar Peterson et finalement, il n'avait pas le temps. Il était dans la voiture pour aller à l'aéroport et qu'il entend. Il entend un pianiste à la radio et on lui dit que c'est Oscar Peterson. Il a dit au taxi demi-tour et il est allé dans la boîte de nuit. Il a écouté Peterson et ne l'a jamais lâché jusque dans les années 90. Il a produit plus de 150 disques avec Peterson. Et autre anecdote intéressante, Norman Grant organisait des concours et des concerts plutôt au Carnegie Hall, qui est quand même la plus grande salle prestigieuse des États-Unis. Et il n'avait pas pu inscrire Peterson dans l'urgence. Et donc il l'a fait inviter surprise sur scène pour jouer avec un très grand contrebassiste, Ray Brown. Et la salle a été totalement envoûtée par ce géant, parce que 110 kilos et 1m90, c'était un homme d'une très grande élégance. Regardez-le sur YouTube, c'est impressionnant. C'est un aristocrate, en fait, notre Oscar Peterson. Nous allons l'écouter là maintenant dans un très beau thème, I'm Crazy About Clifford. Clifford étant un trompettiste qui s'est éteint très jeune, Clifford Brown, et qui a eu droit à un hommage dans ce standard du jazz, I'm Crazy About Clifford. Thank you. Herbie Hancock dira qu'Oscar Peterson a redéfini ce qu'est le swing pour les pianistes de jazz et qu'il a trouvé le parfait équilibre entre la technique, le swing et, nous venons de l'entendre, la tendresse, car la musique d'Oscar Peterson peut être bien évidemment très dynamique, très virtuose, mais elle est aussi très tendre. Écoutons-le maintenant dans un très grand standard de Gershwin, « Someone to Watch Over Me ». Nous avons écouté lors de cette émission Scott Joplin dans Maple Leaf Rag, le Ragtime, puis Fats Waller dans trois titres, l'un à l'orgue, Sugar, puis Squeeze Me et 18th Street Stomp. Ensuite, Art Tatum dans T42, Tiger Rag et L'élégie d'après Massenet. Puis Oscar Peterson à nouveau dans T42 et dans une improvisation à Tokyo sur I'm Crazy About Clifford et Some Watch to Watch Over Me en live en 2014. Notre prochaine émission sera consacrée à un tout autre style, à savoir le compositeur français Camille Saint-Saëns. Et nous avons eu l'idée de faire un pont à l'image du titre de notre émission, Musique au pluriel, qui va nous introduire aujourd'hui Saint-Saëns, et bien d'une manière fort surprenante, Nina Simone. Nina Simone, très grande pianiste aussi, qui a été marquée, elle, peut-être plus que les trois compositeurs que nous venons d'écouter, encore qu'il l'ait subi comme tous les Noirs américains ou canadiens. Elle, Nina Simone, va vraiment souffrir de la ségrégation et ça va marquer sa vie. Elle a notamment toujours dit qu'elle aurait souhaité, elle a fait des études de piano classique et qu'elle avait une vocation à jouer du classique. Elle a dit très clairement qu'elle n'était pas une jazzman. Elle a dû accepter de ne pas être une pianiste classique du fait de la ségrégation et est devenue Nina Simone. C'est peut-être le bon revers de cette médaille détestable, mais en tout cas, elle aura marqué le XXe siècle par son talent, j'oserais même dire son génie. Nous allons l'écouter ici dans une improvisation sur Samson et Dalila, l'opéra de Saint-Saëns, pour conclure cette émission. Et Paul et moi, à nouveau, vous souhaitons une bonne année, ainsi qu'à toutes les personnes que nous croisons en Radio B, qui sont toujours très sympathiques et souriants. Et donc, nous essayerons d'accompagner cette année en musique. Écoutons pour l'instant Nina Simone dans Samson et Dalila.